Et le temps de digérer, pas comme moi, le passage vers la nouvelle année. Retour sur les terrains dès demain pour deux équipes de la Ligue des Champions qui vont lancer la quatrième journée de la phase de groupe. Les tenants du titre, les Égyptiens d'Al Ahly accueillent les Algériens du CR Belouizdad dans la peau de leader du groupe C, ce qui n'est pas du tout le cas d'un autre club phare de la compétition. Le tout-puissant Mazembe panique dans le nid des corbeaux, troisième du groupe A, avec deux petits points quand les Soudanais d'Al Hilal en tête du classement en ont déjà 9 et le Mouloudia d'Alger 4. Alors, avant d'aller chez les Tanzaniens de Young Africans samedi, ça transpire abondamment à l'entraînement, même en ce nouvel an, Pascal Mangala.
Notre fête est sur le terrain. On continue avec le travail. La fête, c'est pour ceux qui se trouvent à la maison.
C'était les mots de Robert Kidiaba, préparateur des gardiens, début avant la séance d'entraînement de ce 1er janvier 2025. Une manière pour le staff technique de booster le moral des joueurs la veille du voyage de Dar es Salaam en marge du match retour contre Young Africa. Pour le jeune attaquant congolais Oscar Kabuit, s'entraîner même le jour de la fête de la bonne année était la chose la mieux à faire.
Être incarné un jour si spécial qu'on devrait être avec nos familles, forcément, c'est donc on prend conscience de l'importance du match qu'on doit jouer à Dar es Salaam. Un match très, très, très décisif, un travail dur pour aller arracher la victoire. Nous sommes tous dans un état d'esprit positif, prêts pour aller chercher une victoire en Tanzanie.
Le Corbeau espère gagner samedi pour se relancer dans la course vers la qualification à la prochaine étape de la Ligue des Champions. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Et Young Africans, TP Mazembe, ce sera donc samedi à 13h, temps universel.
Et l'autre actualité, Christophe, c'est la star du judo, Teddy Riner, de passage au Sénégal.
Oui, le triple champion olympique français en individuel a fini 2024 en faisant un crochet par Dakar. Et plus précisément par les locaux du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse l'an prochain. Il en a profité pour échanger avec les dirigeants du COJO sur le développement de la pratique du judo chez les jeunes Sénégalais. Conseil toujours bienvenu, estime Baladiaï, le directeur des sports de Dakar 2026.
Nous sommes très contents de ce genre de visite parce que ça va inculquer des valeurs à des jeunes futurs champions en herbe qui sont en perspective de Los Angeles 2028. Avoir des champions comme Teddy Riner au Sénégal, parler du développement du judo au niveau local et parler de l'organisation des Jeux Olympiques de Dakar 2026, c'est quelque chose de fantastique avec Teddy Riner pour parler aussi sur des stratégies, comment faire pour que les jeunes judokas puissent s'entraîner correctement, puissent performer sur le plan africain, sur le plan mondial et sur le plan des Jeux Olympiques. Et je pense qu'il va bientôt revenir au Sénégal pour des projets en vue des Jeux Olympiques de Dakar 2026.
Baladier avec Babacar Fall.
C'était le journal des sports de Christophe Diarmesur. Merci à vous Christophe.
RFI, toute l'actualité, Grégoire Morelli.
Et dans l'actualité internationale de ce jeudi 2 janvier, le secrétaire général de l'ONU, la chef de la diplomatie de l'Union européenne et de nombreux pays qui adressent leur soutien aux États-Unis. Réaction après une attaque à la voiture Bélier ayant frappé le quartier français de la Nouvelle-Orléans au moment des célébrations du Nouvel An. Elle a fait au moins cette attaque 15 morts et une trentaine de blessés. Le FBI évoque un possible acte terroriste. Un drapeau de l'État islamique a notamment été retrouvé dans le véhicule du suspect. Un homme de 42 ans, ancien militaire de l'armée américaine qui a été abattu par la police. Les États-Unis, où un Cybertruck, un des pick-up de la marque Tesla, a par ailleurs explosé devant l'hôtel Trump de Las Vegas. Une personne est morte à l'intérieur du véhicule. 7 autres personnes ont été légèrement blessées, selon la présidence. Les forces de l'ordre cherchent désormais à savoir si ces événements sont liés à ceux de la Nouvelle-Orléans. Nous ferons le point sur ces affaires avec nos correspondants aux États-Unis dans les journaux de 7 et 8 heures, heure de Paris. Dans l'actualité également, Israël qui menace d'intensifier encore ses frappes sur la bande de Gaza si le Hamas ne permet pas prochainement la libération des otages israéliens détenus dans l'enclave. Message envoyé par le ministre de la Défense Israël Katz, la bande de Gaza où 25 personnes ont déjà été tuées depuis le passage à l'année 2025 selon les secours du territoire palestinien. Et puis en Corée du Sud, le président déchu Yoon Suk-yeol résiste encore aujourd'hui à son arrestation pour le troisième jour consécutif. Les autorités veulent l'interroger sur sa volonté avortée d'apposer la loi martiale en décembre, au début du mois de décembre. Il promet de se battre, lui, jusqu'à la fin. La Corée du Sud toujours, où les enquêteurs annoncent par ailleurs des perquisitions ce matin à l'aéroport de Moine, dans le sud-ouest du pays, et de deux autres sites. Enquête après le crash du Boeing qui a fait au moins 179 morts ce dimanche.
Au
Au Maroc, la Moudawana, le code de la famille, est en pleine révision. Les premières pistes de réforme ont été dévoilées le 24 décembre dernier, mais elles doivent encore poursuivre leur processus législatif avant d'être définitivement adoptées par les deux chambres du Parlement. 20 ans après la dernière refonte de ce texte, les attentes sont nombreuses et parmi les nouvelles propositions, il y a celle permettant aux femmes divorcées et remariées de conserver la garde de leurs enfants. Mathias Reynal est allé à la rencontre d'une famille pour qui cela pourrait tout changer.
Avec ses deux enfants, elle habite un petit appartement en banlieue de Casablanca. Il y a 3 ans, Mariem a décidé de divorcer.
La cause, c'était la violence. Donc, parce que j'étais une femme battue, j'étais une femme maltraitée, j'étais une femme, vous pouvez dire, violée par le mari. Malgré ça, j'ai essayé de garder les choses à l'amiable pour le développement sain des enfants.
Alors qu'elle vient d'épouser un autre homme, sa vie bascule. Son ex-mari décide de se venger en récupérant leur aîné, une fillette de 9 ans, ce que lui permet encore la loi marocaine.
Les enfants, ils étaient battus, un harcèlement psychique, ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais à la maison, je faisais quoi, où je dormais.
La première mouture du nouveau code de la famille, dévoilée il y a une semaine, revient sur cette disposition et accorde aux femmes divorcées, remariées, le droit de garder leurs enfants. Alors Mariem est
très soulagée. Alhamdoulilah, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que moi et toutes les autres mamans qui ont le même cas que moi, on est très chanceuses. Vous imaginez qu'une mère ait dit « je suis chanceuse ». Pourquoi ? Pour un droit qui est fondamental, de rester avec mon enfant.
Rien n'est encore définitif. Le Parlement doit se pencher sur la réforme.
Avant, l'homme, il pouvait refaire sa vie. Tu te maries, tu fais ce que tu veux, tu peux même divorcer 4-5 fois. Mais ton ex, elle est toujours soumise à toi. Tu la tiens toujours en soumission. Et ça, c'est pas quelque chose qui était équitable.
Allô, bonjour.
Au bout du fil, Sarah, 9 ans, d'une maturité ahurissante pour son âge, elle est en week-end chez sa grand-mère.
Eh bien, j'ai été satisfaite par la nouvelle. J'étais heureuse.
Dans le salon, il y a aussi Mehdi. Silencieux, depuis le début de l'interview, le nouveau conjoint de Mariem esquisse un sourire quand Sarah explique pourquoi elle veut rester avec lui et sa mère.
Parce que c'est vrai que c'est pas mon papa, c'est pas mon vrai papa, mais je l'aime quand même et c'est comme un papa magique pour moi.
Ça veut dire quoi ça?
C'est un papa gentil, un papa magique.
Dieu merci, je n'ai pas eu de problème d'intégration avec les enfants de ma femme. À la maison, nous vivons comme une famille. Je les considère comme mes enfants. Je n'ai aucun souci par rapport à ça.
Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
À Madagascar, t'es prêt sans cash, sans agence, accessible depuis le téléphone le plus basique. C'est la promesse faite par CRED, le service de microfinance de la BNI. C'est l'une des principales banques du pays qui propose donc des services de microcrédit. Lancé en 2019, ce modèle numérique et nomade de la CRED a su se faire une place auprès des micros et petits entrepreneurs. Pauline Le Troquier.
Allô ? Oui, bonjour, madame Viviane.
Les appels de clients fidèles se succèdent dans ce magasin de vente de Provende, à Yavelou, en banlieue sud de la capitale. Le local est devenu le repère des éleveurs de la zone, dépendant de ses graines pour nourrir leurs bêtes. Une réputation que Sange, sa gérante, doit en partie au microcrédit.
Avant, j'avais des difficultés parce que dans le coin, il y a beaucoup de demandes et je n'arrivais pas à toutes les honorer. Grâce au prêt, j'ai pu étendre mon activité, ouvrir un second point de vente, acheter une voiture de fonction et une maison.
À Ivat, tout au nord de la capitale, Youbil, le tireur de charrettes, comme il est surnommé dans le quartier, remplit ses bidons jaunes. Ce livreur d'eau potable en est à son 5e crédit, 2 500 € remboursables sur 18 mois. Autrefois locataire d'une modeste charrette, il a pu en acheter 2 aujourd'hui, se professionnaliser et gagner des clients fixes.
Alors, on a des risques.
J'étais conscient des risques et j'ai même eu peur d'aller en prison si je n'arrivais pas à rembourser. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'investisse dans l'activité, il fallait que ça marche. Le problème des gens ici à Madagascar, c'est qu'ils peuvent utiliser le prêt à des fins personnelles.
Son expérience réussie avec le microcrédit, Youbi l'attribue aussi à la souplesse du modèle CRED. Plus besoin de déplacements coûteux jusqu'aux agences. Le contrat est signé sur tablette au domicile du client. Plus besoin non plus de paperasse, souvent impossible à réunir pour les entrepreneurs informels.
Je fais le dépôt d'argent sur mon téléphone. Je tape un code, je suis les instructions et directement mon remboursement est passé. C'est facile, je ne perds pas de temps, je peux faire le remboursement l'argent de n'importe où, même la nuit, sans frais.
Situés entre 20 et 33%, les taux d'intérêt annuels pratiqués par Crète sont lourds à supporter, mais jugés raisonnables dans un marché où ils dépassent encore les 100%. Pour éviter le piège du surendettement, Adrian Chindris, premier responsable de Crète, assume un ciblage sélectif de sa clientèle.
Notre cible sont les entreprises génératrices de revenus, des entrepreneurs semi-formels que nous essayons de formaliser. Avec une collecte d'informations qui est très bien ciblée, qui peut nous dire si le client est surendetté ou il est forcé de prendre un crédit chez nous.
Dans un pays où l'appropriation de la technologie reste une barrière, ce modèle digital et nomade a profité à ce prêt à l'adopter. Sans évincer le modèle classique de l'agence statique, Cred a forcé l'industrie à suivre la voie de la digitalisation. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Le drapeau de la Côte d'Ivoire sera bientôt hissé sur la base militaire de Port-Boué. Dans son allocution pour les vœux du nouvel an, le président Alassane Ouattara a annoncé en effet la rétrocession de ce camp militaire français d'Abidjan d'ici la fin du mois de janvier. La base passera sous commandement ivoirien et sera rebaptisée Général Ouattara Thomas d'Aquin en hommage au premier chef d'état-major de l'armée du pays. C'est aussi une page qui se tourne dans la relation franco-ivoirienne. Le camp de Fort-Boué a servi à l'opération Licorne de l'armée française qui a durablement marqué les Ivoiriens durant la présidence de Laurent Gbagbo. Comme l'explique le chercheur ivoirien spécialiste des questions de défense, Arthur Banga. Il est notre grand invité Afrique ce matin au micro de Sidi Yansane.
Il y a un grand changement aujourd'hui, c'est que pour la première fois dans l'histoire militaire commune de ces deux pays, on perd la logique de l'intervention, en fait. C'est que l'intervention militaire française sur le territoire ivoirien, comme on a pu le voir en 2011 ou même en 2002, doit être quelque chose qu'on doit oublier. Cela dit, le bilan de la coopération militaire franco-ivoirienne est un bilan largement positif.
En quoi est-ce que ce bilan est positif? Quels aspects considérez-vous positifs?
D'abord, il a permis à la Côte d'Ivoire de garder une stabilité durant toute la période de guerre froide où les menaces soviétiques emportaient certains régimes, emportaient certains pays. Il ne faut pas l'oublier. Il a permis à la Côte d'Ivoire de mettre en place son armée et d'être performante à un certain moment de son histoire, aujourd'hui encore. Et en termes de faiblesse, je l'ai dit, l'incapacité de l'armée ivoirienne à pouvoir réagir justement en 2002, où le fait que l'armée française, par cette idée d'intervention, se retrouve en première ligne, on l'a vu en 2002, en 2004 à l'Hôtel d'Ivoire, en 2011, ça ce sont ses faiblesses de cette coopération. Et justement, on essaie aujourd'hui de se débarrasser de ces faiblesses pour se concentrer sur la force de la coopération militaire franco-ivoirienne, qui est une relation humaine, une vraie camaraderie militaire qui est née entre les militaires de ces deux pays, la montée en puissance de l'armement, qui est aussi une partie de cette coopération.
Le chercheur ivoirien, spécialiste des questions de défense, Arthur Banga, la version longue de cet entretien est à retrouver sur notre antenne à 5h47, temps universel. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale, RFI, qui toute cette semaine vous fait écouter ou réécouter le meilleur de Maman. Et ce matin, Maman, le Gondouanais lambda, a appris que son pays est un producteur d'or.
Oui, quand il a appris cette magnifique nouvelle, le Gondouanais lambda a bombé la poitrine de fierté et la nuit venue, il s'est couché l'âme en paix après une journée de travail éreintante. Ainsi, son pays, le Gondwana, est l'un des plus grands producteurs d'or au monde. C'est génial, c'est fantastique ça. Ce titre mondial et planétaire procure un énorme sentiment de fierté chez n'importe quel Gondouanais où qu'il se trouve dans le monde. Mieux qu'une qualification à la CAN, l'or Gondouanais place la très très démocratique République loin devant tous ses voisins. Loin devant tous les soi-disant pays industrialisés, pays du G7, etc. Quand le Gondwana lambda marche, la tête haute dans les rues poussiéreuses de Gondwana City, notre belle capitale, et qu'il voit des affiches publicitaires sur lesquelles de jolis mannequins arborent de superbes bijoux dorés, et il ne baisse pas la tête. Il étoise du haut de son titre de plus gros producteur mondial d'or et se dit intérieurement « Regarde-les avec leurs bijoux là, elles ne savent pas que l'or là, il vient de mon village. » Et oui, que seraient les économies et les industries de luxe de tous ces soi-disant pays riches sans l'or gondouanais? Il le sait, le Gondouanais lambda. Le gouvernement de la très très démocratique République lui dit tous les jours « Soyez fiers, chers Gondouanais. Grâce aux richesses de notre sous-sol, nous sommes un pays riche. » Pendant que les soi-disant pays les plus puissants de la planète patauge et s'enfonce dans la crise économique, la très très démocratique démocratique république brasse des milliards de dollars. Tous les jours, pour rien au monde, le Gondwanais lambda ne raterait à la radio le point sur les cours de l'once d'or à la bourse des matières premières. Dès qu'il entend que le prix a augmenté, même de 1%, il crie, il saute de joie, comme si le Gondwana venait de se qualifier pour la finale de la CAN. Il est fier, le Gondwanais lambda. Chaque nuit, quand il rentre à la maison, dans l'obscurité la plus totale, oui, parce que le courant est coupé, eh bien, il se déplace d'un pas assuré, arrive chez lui sans se perdre, sans trébucher, parce qu'à force de vivre toujours dans le noir, il a acquis le don de vision nocturne, comme les super-héros de Marvel. Mais ce que le Gondwanais lambda ne sait pas, c'est que l'or du Gondwana aussi a des super pouvoirs. L'or du Gondwana a la capacité d'être furtif, indétectable, invisible, au point de passer du sous-sol gondwanais aux bijouteries de luxe de Dubaï, Milan ou Place Vendôme, sans être vu de personne, au checkpoint sur la route, au contrôle de police et de douane, à l'aéroport de Gondwana City, notre belle capitale. Puis l'or monte dans l'avion, sans passeport, sans visa, sans test Covid, et s'en va sans dire au revoir au Gondwanais lambda. À lundi.
Merci Maman, et à lundi, bien sûr, voilà qui clôt cette demi-heure d'information. Merci à vous de nous avoir écoutés à la réalisation ce matin. C'était Quentin Moulin, à la rédaction en chef Sébastien Duhamel. Merci à tous les deux. Le prochain journal consacré cette fois à l'actualité internationale d'ici à peine 2 minutes. Moi, je vous propose en attendant de retrouver Andréane Mélard. Bonjour Andréane. Peut-être encore un peu tôt pour retrouver Andréane, mais le premier journal, je vous le disais, ce sera d'ici une bonne minute à présent. Et très bonne écoute à l'écoute des programmes de RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Cette semaine, RFI vous invite tous les jours au concert.
Vivez ou revivez les meilleurs moments des concerts enregistrés en 2024 par RFI. Retrouvez ce jeudi Jessie B, la lauréate du dernier prix découverte RFI.
C'est à 20h10 TU sur l'antenne, sur notre site internet et sur la chaîne YouTube de RFI Musique.